RCF.
Je vous dis ça, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes la présidente de l'association Coexister et ce soir vous organisez avec plusieurs partenaires, dont la paroisse d'Allonne, une projection documentaire. Il est question de présenter plusieurs initiatives de jeunes musulmanes. Pourquoi est-ce que vous avez décidé d'organiser cette soirée dans la paroisse ?
Parce que c'est la paroisse qui a proposé de nous donner une salle. Et donc, c'était une belle initiative parce qu'à Coexister, qui est un mouvement interreligieux, on promouvoit la coexistence active et l'interreligieux. Et donc, c'était une belle initiative de la paroisse qui voulait nous accueillir et accueillir les jeunes femmes musulmanes. En fait, celle qui a fait le documentaire avait en tête de montrer qu'il y a des femmes musulmanes quand même qui sont croyantes, mais ces femmes-là, elles font bouger les lignes. Donc, être croyante, être laïque et féministe, c'est pas incompatible aujourd'hui.
C'est un peu votre cas, vous êtes chrétienne, vous étiez en Syrie, vous êtes arrivée en France.
Moi, je suis née à Alep et j'ai vécu toute ma vie à Alep à peu près, à part le petit bout de l'université que j'ai fait à côté de Damas. J'ai fait une licence en sciences politiques et à l'année scolaire 2012-2013, j'ai décidé de quitter la Syrie pour continuer mes études en France.
Guerre avait déjà commencé.
Oui, ça avait déjà commencé en 2011. Donc, j'ai vu les événements commencer. Comment ça s'est escaladé et tout. J'ai eu un petit stop parce que je ne savais pas comment je vais laisser ma famille parce que la guerre avait commencé et tout. Et donc, est-ce que c'était judicieux de laisser tous mes amis, ma famille dans la guerre et de partir continuer mon avenir? C'était vraiment une phase très difficile pour moi.
Et alors, comment est-ce que vous avez vécu cette première année en sciences politiques à Lyon?
C'était très très difficile parce que du coup j'étais tout le temps sur mon portable en train de voir Facebook, de voir ce qui se passait à Alep parce que en fait les médias on les suit depuis 2011, on les regarde plus, nous les Syriens, parce qu'ils disaient n'importe quoi. Et donc du coup on faisait confiance que à nos amis sur Facebook qui mettaient des posts sur ce qui se passait avec des photos de la rue ou des endroits, des explosions ou des bombardements. Et à chaque moment qu'il y a une explosion, un bombardement, j'appelais tout de suite Alep en pleurant et je rentrais dans des moments de dépression, même si mes parents ils me disaient oui ça va, j'étais sûre que ça n'allait pas, mais qu'ils essayaient de me dire que ça va parce que je suis loin ou ils veulent pas que je sois perturbée par l'actualité.
Et alors à la fin de l'année 2013, vos parents ont finalement pas eu le choix que de quitter la Syrie compte tenu de la situation à Alep.
Je suis retournée pour les vacances, donc on était dans l'avion qui était parmi les derniers qu'ils ont quitté l'aéroport d'Alep parce que après l'aéroport a été bombardé. Au départ, mes parents ils savaient pas s'ils allaient quitter définitivement la Syrie ou ils allaient rester. Donc ma famille ils ont mis leurs affaires dans un petit sac comme s'ils allaient 2 ou 3 jours au Liban. À part moi, il m'a pris de côté, il m'a dit « Judy, n'est-ce pas tu vas revenir en France pour faire ta deuxième année de master ? Range tes affaires comme si tu allais partir en France, parce que peut-être tu prendras l'avion depuis le Liban et tu reviendras pas à Alep. » J'ai dit « Mais papa, il me reste 2 mois de vacances. » Il me dit « Non, non, range tes affaires comme si tu allais en France. » Après, il y a eu le blocus d'Alep, donc on ne peut plus accéder à cette ville. Donc ils sont restés un petit peu au Liban et à la fin, ils ont fait le choix de venir en France.
Depuis, ils ont retrouvé du travail et surtout, depuis, les bombardements se sont intensifiés. La ville d'Alep est complètement détruite. Comment est-ce que vous vivez ça d'ici en Europe?
Je vis ça très mal, mais aujourd'hui, il faut continuer. Je garde un œil sur Alep et mon cœur est là-bas, mais aussi, je dois aller vers l'avant pour essayer de faire le maximum pour les gens qui viennent en Europe ou faire le maximum pour sensibiliser les gens à la question des migrants, des demandeurs d'asile, des réfugiés. Parce que c'est pas facile de voir une partie de son identité, de son passé, de son enfance complètement détruite. Il ne reste plus rien. Mes amis seront dispersés dans le monde. Certains sont morts. Mon grand-père, l'année dernière, était mort suite à un bombardement. Il était mort de chagrin. Le bombardement ne l'a pas touché personnellement parce qu'il était dans une autre chambre et une partie de sa maison a été détruite complètement. Après quelques jours, il était mort de chagrin. C'était très dur pour moi. J'ai vécu de très difficiles... J'ai vécu des moments très difficiles, mais après, comme on dit en français, j'ai fait mon deuil et je me suis dit, aujourd'hui, je dois montrer c'est quoi la réalité et aussi aller vers l'avant pour montrer que la vie doit continuer et qu'il y a encore de l'espoir.
Vous parliez de sensibiliser le maximum de gens à la cause des migrants. C'est pas facile en ce moment compte tenu du climat en France. Comment est-ce que vous faites ça au quotidien dans votre vie ?
Au quotidien, moi, je travaille dans le domaine de la demande d'asile. Donc, déjà, la population que je fréquente, c'est des demandeurs d'asile. Donc, je travaille dans un centre d'hébergement et où on les héberge, les demandeurs d'asile. Et donc, on les aide administrativement et socialement pour s'intégrer ici. Et aussi, à côté de mon travail, je fais beaucoup de bénévolat pour aider des familles qui arrivent ici, parce que j'ai déjà de l'expérience par mon travail aussi. Donc, aussi l'aspect juridique dans lequel je travaille, c'est très facile pour moi. Donc, dès qu'il y a une question, les familles m'appellent et me sollicitent pour de l'aide. Et donc, je les aide. Et j'espère pouvoir expliquer au maximum aux gens autour de moi c'est quoi la demande d'asile, parce que les gens, ils ont des idées, des amalgames, des notions très falsifiées de la démarche. Parce qu'ils croient que la personne, quand elle vient au Mans, elle est systématiquement reconnue réfugiée si elle vient d'un pays en guerre. Non, il y a des enquêtes, il y a une procédure.
C'est pas vraiment ce qu'on entend dans les médias et c'est très loin des idées reçues. Et donc c'est pour ça que vous organisez la rencontre qui aura lieu, je le rappelle, ce soir à la paroisse d'Allonne. Il s'agit du premier épisode d'une série documentaire qui vise à montrer qu'il y a des jeunes femmes qui font, comme vous l'avez dit, bouger les lignes. Merci Judy Issa d'avoir été avec nous aujourd'hui.
Merci à vous.
Bonne journée.
Bonne journée.